certains scénarios pointent la possibilité d'une exclusion encore plus forte de la communauté chrétienne qui vit au nord. On compte à peu près 1,5 million de personnes du sud, Soudan, qui vivent dans Khartoum et ses environs. Et ces personnes-là s'inquiètent effectivement de leur avenir en tant que citoyens soudanais sur le territoire de Khartoum. D'autres analyses tentent à montrer qu'on pourrait même aller jusqu'à des risques d'expulsion de cette communauté, avec l'argument qui est le Sud a choisi d'être indépendant, nous vous demandons d'aller vivre dans le pays qui vient d'être déclaré. Donc il y a des présomptions de risques plus ou moins forts pour la communauté du Nord.
Alors vous parlez d'exclusion encore plus forte, est-ce que cela signifie que présentement la communauté chrétienne subit déjà des exactions et des vexations ?
C'est moins des exactions, des pressions qu'une certaine manière de les considérer parfois comme des citoyens de seconde zone en termes d'accès à l'emploi, d'accès à la fonction publique, d'accès à tous ces services-là. C'est plus difficile pour les chrétiens qui vivent dans le nord du pays que pour les autres communautés musulmanes du nord Soudan.
Alors justement, quels sont les enjeux et points de discorde du référendum ?
Beaucoup de questions sont encore non résolues. Alors je pense à la démarcation des frontières entre le nord et le sud, au partage des ressources naturelles, puisque le pétrole, qui est un des enjeux géostratégiques forts pour l'avenir du Soudan, est majoritairement au sud. Donc Khartoum voit d'un mauvais œil le sud devenir indépendant. Donc toutes ces questions-là de partage des richesses, le partage des eaux du Nil aussi, le partage de la dette du Soudan ne sont pas résolues, ce qui fait qu'on a cette échéance qui approche, mais des conflits potentiels qui peuvent émerger au lendemain du référendum. Le Soudan a une dette extérieure qui est assez élevée, plusieurs milliards de dollars. Donc se pose la question du partage de la dette si le Sud-Soudan devait devenir indépendant. Sur le partage des eaux du Nil, on touche aussi au voisinage du Soudan. Le Nil fait l'objet d'un traité qui concerne 9 pays et certains pays, notamment l'Égypte, pour laquelle le Nil est une ressource très importante dans sa vie économique, voit d'un très mauvais œil un nouvel État traversé lui aussi par le Nil et qui va demander sa part en termes de partage des eaux du Nil. Donc c'est là-dessus qu'il y a des débats assez forts, quoi.
Alors quels sont les moyens à mettre en œuvre pour que le référendum se passe correctement ?
La communauté internationale se mobilise fortement pour faire pression sur le Nord et le Sud afin qu'ils mènent à bien l'organisation du référendum. Ça, c'est un premier levier. Vous avez également la société civile et notamment les églises qui font au mieux pour travailler avec les populations sur l'éducation civique, les enjeux du référendum, pourquoi on va voter. Donc ça se joue à plusieurs niveaux.
Quel rôle l'église joue-t-elle dans cette partie ?
Alors l'Église intervient à différents niveaux. Elle répond aux besoins des populations en difficulté, donc à la fois sur des programmes de réponse à l'urgence, mais aussi de reconstruction, de développement au sud, parce que vous avez un État où tout est à reconstruire après des décennies de guerre civile. Au-delà de ça, l'Église porte un message auprès de la communauté internationale, auprès des leaders politiques du pays, pour demander à ce que les principaux points de l'accord de paix, et en l'occurrence le référendum, soient respectés et que le peuple du Sud-Soudan puisse avoir droit à l'autodétermination.